et bienvenue dans À votre avis, votre émission quotidienne de débat sur les antennes de VOA Afrique. Claire Morin-Gibault avec vous en direct du studio 11 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Aujourd'hui, nous discutons environnement bien sûr, puisque c'est la journée de la Terre. Alors, plein de questions pour vous, chers auditeurs. Êtes-vous éco-responsable? Un mot qui est rentré dans le Larousse en 2014. Que faites-vous pour protéger la nature chez vous et dans vos régions? Ou bien, que faudrait-il mettre en place pour réduire les impacts négatifs des êtres humains sur l'environnement? Venez en discuter tout de suite sur l'antenne de VOA Afrique avec nous. Venez partager vos idées. Vous appelez le 001 202 205 26 33 202 205 26 33, et bien entendu, nous vous rappellerons. Alors, nous avons, vous êtes nombreux à nous avoir laissé vos messages sur notre page Facebook VOA Afrique, et notamment Jonathan Tsongo qui nous a appelé de la RDC. Bonsoir Monsieur Tsongo.
Bonsoir VOA Afrique et bonsoir à l'ensemble de tous les auditeurs de VOA Afrique.
Bonsoir. Alors,
pour moi, je pense que...
Allez-y, je vous écoute.
Oui, juste pour moi, je pense que maintenant, la Terre est menacée par plusieurs défis. Il y a ce qu'on appelle, premièrement, j'évoque le cas des déboisements massifs et surtout dans des pays du tiers-monde où les gens ne sont pas accès au courant. Pour utiliser du charbon, on doit se servir toujours des arbres. Deuxièmement, nous avons le problème de l'extrait des minerais. C'est tout vrai, dans beaucoup de pays, on est en train d'extraire des minerais, pétrole et d'autres matières qui sont en train de menacer la Terre. Et tout ça, je condamne le gouvernement et je condamne d'ailleurs la communauté internationale qui n'a pas encore mis une politique. Donc il n'y a pas une politique mise en place pour protéger la Terre. On pourrait dire donc, parce que dès qu'il y a encore un déboisement massif, il faut qu'on puisse financer la Terre surtout dans des pays du tiers-monde. Comme si la République démocratique du Congo considérée comme les poumons du monde. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été pris comme engagement pour protéger cette forêt.
Au niveau
de l'extrait des minéraux, je vois le côté du lac Kivu, et bien autre part, à l'est de la République démocratique du Congo, vers extraire le pétrole. Il n'y a pas vraiment une politique du gouvernement. Ils sont en train de voir extraire, mais ils n'ont pas encore mis une politique de voir comment est-ce qu'ils vont protéger l'environnement. Je pense que pourrait même financer des associations locales qui luttent pour l'environnement. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait.
Donc pour vous, c'est avant tout, on manque de décisions politiques dans votre pays.
Évidemment, il n'y a pas vraiment de décision politique. On voit par exemple, est-ce que j'allais dire aux États-Unis, même pas les États-Unis qui est le premier pays qui est en train de polluer la nature, mais s'est retiré de l'accord de Paris qui protégeait la nature. On voyait quand même Trump qui a marché sur Trump avait directement marché sur l'accord de Paris qu'avait signé Barack Obama. Je pense que tout cela est en train de mettre le monde à péril.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Tsongo. Vous nous appeliez donc de la RDC. Alors, maintenant, depuis la Côte d'Ivoire, nous avons Eric Gauze, ou Gauze peut-être. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Okay.
Alors,
j'ai vu le sujet. Oui. Il est bien plaisant pour les environnementalistes, c'est très bon. Mais maintenant, ça... Vous savez, pour pallier à tout ce qu'on peut appeler un peu comme dégradation sur ce côté-là, sur ce volet du secteur de l'environnement, il faut une sensibilisation, franchement. Il faut une sensibilisation. Et puis, il ne faut pas que ça soit seulement au niveau des politiques. Parce que les politiques, ils sont là. Vous savez qu'ils sont là, ce sont des parrainages. Ils sont là pour faire du business de leurs parrains qui les ont mis là. Seulement, c'est une sensibilisation. Elle doit être d'abord nationale.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement? Vous parlez de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faudrait plus faire, plus mettre en place?
Il faut montrer déjà les effets, ce que l'homme fait déjà, qui est déjà néfaste déjà pour l'environnement. Il faut amener même, faut dire à l'homme que l'homme est un danger même pour l'environnement. En plus de cela, il faut envoyer des solutions pour contrer. On ne peut pas 100% y remédier, mais il faut envoyer des solutions pour contrer, pour ne pas que l'avancée soit galopante, si je peux m'exprimer comme ça, soit rapide. Il faut venir avec des actions. Peut-être, bon, on peut prendre un peu aujourd'hui la déforestation, on parlait du reboisement. À chaque moment qu'il y a de l'exploitation dans ce domaine-là, il faut que tous ensemble, nous puissions au moins d'un seul homme, nous lever et puis faire le reboisement. Bon, je parle un peu les industries aujourd'hui pour la pollution et consorts. Il faut que l'État puisse mettre en place des lois sérieuses. Des lois sérieuses qui vont aujourd'hui contrer aujourd'hui tous ces dirigeants des grandes entreprises aujourd'hui qui font de la pollution. Il faut que nous-mêmes, on s'attelle à faire au moins quelque chose. Hein. Voilà, moi, c'est un peu ça. Mais je veux qu'on passe sur des bases bien définies, côté de la loi et puis l'action même de l'homme sur l'environnement.
Mais juste concrètement en Côte d'Ivoire alors, puisque vous connaissez quand même bien la situation chez vous, qu'est-ce que vous aimeriez que soit les gouvernements, soit les associations, soit des simples citoyens, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place?
Bon, comme j'ai dit ici un peu, il y a le braconnage, il est un peu élevé, donc il faut commencer à déjà faire des reproductions des animaux. Vous comprenez un peu, parce que tout ça, ça fait partie aujourd'hui de l'environnement, l'exploitation du bois. Ici, c'est beaucoup exagéré, mais il faut faire des actions de reboisement derrière. On ne peut pas freiner le développement d'une nation. On ne peut pas aussi freiner aussi ceux qui ont les moyens aussi pour construire leur société. Mais seulement, il faut que tout ça soit balisé par des lois vraiment bien suivies avec tout un chacun. Il faut que la population joue son rôle. Voilà, il ne faut pas forcément voir les
très bien. Donc
la
vous, vraiment, protéger la nature, mais bien entendu, ne pas freiner, que ces actions ne freinent pas le développement du pays. Merci beaucoup, Monsieur Gauzé, vous nous appeliez depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons également Olivia Rowling, qui nous a appelé depuis Bujimayi, c'est en RDC. Bonsoir, madame.
Bonsoir, ce n'est pas madame.
Ah non, Olivia, excusez-moi, je pensais que Olivia, je me suis trompée. Toutes mes excuses.
En tout cas, à mon avis, la vie, je pense tout simplement que nous devons donc entretenir notre environnement afin que nous puissions donc. Afin que nous puissions donc avoir une vie meilleure. En tout cas, monsieur, mais donc, madame la journaliste, si vous venez ici à Bujimayi, ne commence pas les noms. Et c'est donc toutes les choses, ou bien toutes les portatives qui peuvent donc témoigner d'une vraie vie, mais sont prévenues. C'est aussi que je lance un appel à toutes les autorités internationales, toutes les autorités nationales ainsi que locales, afin de bien soutenir l'initiative, qu'on puisse donc avoir un environnement tellement meilleur que jamais.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Rowling. Je suis désolée, la ligne est extrêmement mauvaise. On a du mal à discerner ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, donc je relis ce que vous nous aviez écrit sur notre page Facebook. Il faut bien entendu entretenir notre environnement. Et pour vous, c'est le volet santé hein, qui vous intéressait pour nous protéger contre les maladies. Alors, nous avons aussi deux ou trois personnes qui nous ont laissé des messages sans laisser leurs coordonnées. Donc, pour Philémon Begedem, l'homme est en fait l'esclave de la nature. Donc, il faut absolument dompter cette nature, mais en la domptant, il faut respecter les lois, ces lois naturelles, ces lois de la nature. Et puis, Fernand Bolela, toujours depuis la RDC, les premiers destructeurs de la nature, ce sont les autorités du pays, dit-il, même si la population empiète aussi sur la nature. Pour réduire cet impact, il faut lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, les autorisations d'exploitation forestière, un sujet que l'on a beaucoup couvert récemment sur nos antennes. Lui dit sentir les effets du réchauffement climatique. Il fait chaud terriblement. S'il pleut, c'est une pluie accompagnée d'un vent fort. Et nous avons vu d'autres fois une eau de pluie cette année, donc dit-il, une eau de pluie noire, donc probablement une eau extrêmement polluée. Voilà. Alors, nous avons également de la RDC, beaucoup d'appels de la RDC aujourd'hui. Arsé Mukendi. Allô, monsieur Mukendi.
Allô,
oui, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et merci de votre participation. Oui, allez-y. Voilà,
mon intervention qui porte sur l'environnement. Je voulais dire que l'environnement, c'est tout d'abord une question qui intéresse tout le monde. Il n'y a pas que les autorités du pays. Comme j'ai intervenu sur la page de Facebook, ici chez nous en RDC, quand on parle de l'environnement, on voit tout d'abord la gestion des déchets, des ordures ménagères et surtout des ordures plastiques. Mais en dehors de cela, on voit aussi l'exploitation de nos forêts par les fabricants de charbon de bois. Il y a aussi l'exploitation minière qui intervient et qui détruit tout ça. Notre environnement. Si je dois revenir à la gestion des déchets, on se rend compte précisément dans la ville de Lubumbashi que c'est un problème que les autorités urbaines ne sont même pas en mesure de résoudre. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que la population jette des ordures à même les avenues, les rues. Alors, vous voyez, c'est un grand défi pour les autorités du pays. Et aussi pour nous, population de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que je dis personnellement, dans ce que je fournis comme effort pour protéger l'environnement, c'est surtout la gestion des déchets ménagers, que personnellement, ou dans la famille, nous essayons de gérer en catégorisant les types de déchets que nous sommes en train d'accumuler à la maison. Il y a des déchets plastiques que nous savons mettre d'un côté et des déchets qui sont biodégradables que nous, nous enfouissons sous terre, question que ces déchets-là ne puissent pas porter atteinte à notre santé.
Tout à fait.
C'est un peu ça, mais nous encourageons la population congolaise à veiller à la propriété, sinon, je le disais, l'environnement est la ceinture de sécurité de l'homme.
Très bien. Nous restons sur cette jolie phrase. L'environnement est la ceinture de sécurité de l'homme. Merci beaucoup, monsieur Mukendi. Alors, vous êtes également nombreux à nous écouter, la diaspora, bien sûr, africaine. Et nous avons Mamadou Lamranba qui nous a appelé de Brooklyn, New York. Allô, monsieur Ba?
Allô, bonsoir à vous et à l'ensemble des auditeurs.
Bonsoir. Alors, j'ai vu que sur votre page Facebook, vous étiez très impliqué. Vous avez même suivi en direct le discours du maire, Monsieur De Blasio, sur l'environnement. Yes. Alors, racontez-nous un petit peu votre vision de New York, de Brooklyn, plus exactement.
Bon, par rapport à la ville de New York, c'est une ville vraiment qui adhère à ce que l'on appelle la révolution verte. Le maire est très impliqué dans cette situation. Nous savons que le président qui est là, il est hostile, disons, à la protection de l'environnement. Mais à New York, ici, le maire, vraiment, c'est un maire qui est dynamique. À chaque fois, il y a à l'occasion des journées internationales de l'environnement, il est impliqué dans des mouvements, dans des organisations pour attirer les foules et essayer de parler comment sauvegarder l'environnement. Ici, il n'y a pas tellement de problèmes. L'environnement, vraiment, l'environnement est bien protégé et les normes sont respectées. Seulement,
Alors, qu'est-ce que, par exemple, est-ce que votre expérience américaine vous a donné des idées à appliquer en Afrique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple?
Bon, surtout au niveau des déchets, vraiment, il y a une grande expérience. J'ai constaté ici que une expérience que probablement je pourrais apporter à mon pays, la Guinée, qui est actuellement le champion en ce qui concerne les ordures. La capitale Conakry est tout le temps inondée d'ordures. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut séparer les ordures. Au niveau des ménages d'abord, il faut classer trois sortes d'ordures. Il y a les plastiques, il y a les papiers et les déchets que l'on doit, et les autres déchets. Je pense que cela doit inspirer les autorités guinéennes et de façon générale les Africains à essayer
de mieux gérer les déchets.
C'est vraiment
un sujet qu'on a déjà abordé avec l'auditeur précédent, la gestion des déchets, un grand point pour améliorer l'environnement. Alors, nous avons également Marie-Jeanne Abega qui nous a appelé du Cameroun. Bonsoir Marie-Jeanne.
Bonsoir la VOA.
Bonsoir. Alors, vous nous avez laissé un petit message sur notre page Facebook. Et pour vous, ce qui est très important, il faut éduquer les êtres humains, les hommes, les enfants. Donc, il faut plus... vous pensez à l'école, vous pensez... comment est-ce qu'on peut avancer sur cette éducation générale?
On devrait éduquer la morale. Enseigner la morale aux enfants à partir du bas âge pour savoir que l'environnement doit être protégé, la nature devrait être protégée et on doit aussi aborder le dialogue social, éduquer les populations sur les dangers de la pollution de l'environnement. Par exemple, comme on parle des déchets plastiques, des gens qui utilisent les déchets plastiques et ça bouche les caniveaux, ça empêche l'eau de circuler, ça cause des inondations. Si on éduque les populations dans ce sens, ça ferait que les gens auront peur de jeter les ordures n'importe où. Et en ce moment-là, on organise des gens pour transformer ces ordures. On devrait encourager la transformation des ordures plastiques, donc le recyclage des ordures pour éviter la détérioration de l'environnement. Si on ne le fait pas, il y aura toujours la pollution, il y aura des catastrophes comme les inondations, on se retrouve avec des sans-abri suite aux inondations. Donc, c'est autant de choses qu'il faut faire. Donc, ça part de l'éducation des masses. Si le peuple n'est pas éduqué, il va penser que si on balance les bouteilles plastiques n'importe où, on balance les pots de bananes dans la rue, ça ne fait rien. Or, ça pollue, ça détruit, ça apporte des maladies, ça apporte les mauvaises odeurs, ça détruit l'écosystème même en général.
Mais il faut également que, bien entendu, dans les villes, il y ait un système de ramassage des ordures qui fonctionne correctement. Tout ceci doit être aussi bien organisé au niveau de la ville et des villages.
Évidemment, bien évidemment. Les ordures, que ce soit en ville, que ce soit au village, on a besoin de l'éducation des masses. Si les masses ne sont pas éduquées, elles vont penser que balancer les ordures derrière sa maison au village est une bonne chose. Or, ces ordures, lorsqu'ils ne sont pas biodégradables, deviennent un danger pour l'écosystème et deviennent un danger à la longue pour l'environnement. On aura des terres arides qui ne seront pas favorables à l'agriculture. Donc, pour cela, pour lutter contre ça, il y a des associations qui luttent contre l'environnement. Moi j'ai par exemple une association qui lutte contre, qui est pour la protection de l'environnement. Donc, nous sensibilisons les gens sur les dangers de cette pollution, sur les dangers des ordures abandonnées dans la rue ou bien des passages dans la voiture, on baisse la vitre, on jette une bouteille ou bien qui va causer des gaz, parfois ça casse les vitres de quelqu'un d'autre ou bien ça peut blesser quelqu'un d'autre. On éduque les masses dans ce sens et on insiste sur l'enseignement de la morale dans les écoles. S'il y a l'enseignement de la morale dans les écoles, il y a des choses que l'enfant aura peur de faire lorsqu'il grandit.
Mais très bien. Si on banalise... Oui, merci beaucoup, Madame Abega. On a compris et bon courage pour votre association. C'est vrai que il faut que chacun soit ait une démarche citoyenne et pour commencer à ne rien jeter, et comme vous le disiez, par la fenêtre de votre voiture ou derrière sa maison, il faut que tout soit recyclé ou en tout cas déposé à la décharge. Nous avons également Aruna Balné qui nous a appelé depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Monsieur Baldé.
Oui, bonsoir madame, bonsoir la veuve Afrique, bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir, alors vous, vous avez une association étudiante où chaque année durant les vacances, vous, vous luttez pour le reboisement. Vous pouvez nous raconter un petit peu de ce que vous faites et à quoi ça sert?
Oui, exactement. Bon, étant des étudiants et conscients le danger qui menace l'environnement, à chaque fois durant les vacances, lorsque nous terminons les années académiques, nous rentrons au bercail pour sensibiliser les parents pour faire ce qu'on appelle le reboisement avec nos propres moyens. Nous avons des grandes associations étudiantines. Et quand nous rentrons, parce que nous savons nettement que l'environnement est menacé, la forêt elle est coupée, alors nous, notre rôle, c'est d'aller conscientiser les parents pour leur dire l'importance de la nature. Parce que quand la nature est menacée, c'est l'humanité qui est menacée. En fait, nous, étant intellectuels, conscients de cela, nous les accompagnons dans ça en faisant un reboisement avec l'appui des autorités locales aussi. C'est comme ça que nous procédons chaque année. Et aussi sensibiliser les gens pour la lutte du feu de brousse, en fait, qui est très, très, très récurrent au niveau des villages, parce que les gens ne respectent pas. Il y a des fumeurs de cigarettes, ils jettent les mégots de cigarettes un peu partout, les restants. Et ça, c'est ce qui cause un peu plus les feux de brousse. Et alors, nous menons des sensibilisations par rapport à cela. Parce que, aussi, au niveau des écoles, nous implantons des arbres parce que nous voulons un esprit sain dans un environnement sain. C'est exactement ce sont les idéologies là que nous empruntons vraiment pour lutter contre le désastre de la nature.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Baldé, qui vous nous appeliez depuis Dakar au Sénégal. Nous avons également depuis le Bénin Vincent Seonou. Bonsoir depuis Parakou. Allô?
Oui, bonsoir, cher journaliste. Je vous appelle depuis Parakou.
Oui, alors l'émission touche à sa fin, mais vous insistiez dans votre message sur l'usage des herbicides et des engrais chimiques. Effectivement, il faut faire attention parce que cela peut détruire l'environnement et la richesse des sols. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Depuis l'usage des herbicides et des engrais chimiques, on a constaté la régression de la fertilité des terres. Avant, les vers de terre nous donnent des choses, des engrais organiques. Mais pourtant, depuis 10 ans, 20 ans comme ça, on n'assiste plus à cela. Et les rendements même ne donnent pas. Vraiment, ça cause des maladies telles que le paludisme, la paralysie, des maladies qu'on ne constatait même pas au temps de nos aînés. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, c'est ce qu'on constate. Après l'analyse des docteurs, ils nous ont dit qu'effectivement, c'est cet usage-là qui cause ces maladies. Vous voyez un peu. Mais et aussi, on peut parler aussi des inondations un peu partout qui polluent l'environnement, que le gouvernement en question ne prend même pas. Et cette chose-là, pour au sérieux, pour pouvoir régler ces problèmes. Chaque année, c'est ce qu'on constate. Même ici au Bénin, à Cotonou, là, quand on dit Cotonou, on dit Bénin. Mais cette ville principale et résidentielle administrative est une ville laissée un peu partout. Vraiment, vous allez à Cotonou, vous ne sentez que des mauvaises odeurs. Alors qu'il y a des grandes personnalités qui sont là-bas. Je demande à nos chefs d'État et aux autorités locales de contribuer à l'avènement et aussi à l'aménagement de cette grande ville à statut particulier. C'est ce que je vais surtout les demander et aussi aux autres chefs d'État en Afrique, que l'Afrique soit bien développée comme les autres pays en Europe et dans le monde entier.
D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, nous avons Diara Kanyoumé. Bonsoir Diara, je crois que vous nous appelez du Mali.
Oui, toujours dans mon village natal à Sonikini.
Très bien. Alors malheureusement, l'émission, vous avez vraiment très peu de temps, mais dites-nous, alors au Mali, nous avons eu, que faudrait-il mettre en place chez vous pour protéger la nature?
Ok, il y a des ONG, mais à mon avis, je pense que vraiment la situation, vraiment, les autorités maliennes ne maîtrisent pas par rapport à la population. Il faut imaginer que vraiment, côté même citade Omnisport, donc il y avait une école qui était fermée par rapport à les odeurs des ordures. Donc je pense que vraiment les gens, ils sont en train de verser les ordures en désordre. Là. Je pense que vraiment ça va pourrir la terre. Donc il faut imaginer que les étudiants avec les professeurs, ils ont plein par rapport à ça. Donc il faut que l'État prend et leur travaux en charge.
Très bien, merci beaucoup Monsieur Diara. Je remercie Georges Léonard Sagno et Firmin Max Koyaveda pour la réalisation de cette émission. Thomas Blondet, restez avec nous tout de suite. Une nouvelle édition du Monde aujourd'hui avec Abdourahmane Dia et Raïssa Gironda.
VOA.